Bonjour et merci de votre présence ici à cette table ronde sur le sujet de l'éternité. Je m'appelle Alexis Black et je suis anthropologue linguistique à Montréal. En tant qu'anthropologue, la question de l'éternité se relie à une caractéristique fondamentale et universelle de l'humain, sa mortalité. Souvent, lorsque moi je pense à l'immortalité, je me rappelle une citation de Milan Kundera qui est « The longing for paradise is man's longing not to be man » ou « Le désir du paradis, c'est le désir de l'homme de ne pas être homme ». Depuis la paléolithique, l'être humain quête à dépasser sa mortalité, sa vie dans le temps, et à toucher à un au-delà qui, depuis le temps, a pris maintes définitions. Que ce soit des empreintes des mains sur les murs des grottes Chauvet ou des projets actuels des milliardaires pour accomplir leur immortalité à travers la robotique et les cerveaux artificiels, l'être humain se préoccupe à toute époque par une version ou une autre de l'éternité et l'immortalité. Aujourd'hui, pour discuter ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir trois personnes de domaines différents pour nous fournir des regards croisés sur cette question. On a Philippe Guillet, qui est géologue et ingénieur de formation et directeur du Musée de l'Histoire naturelle à Nantes depuis octobre 2013. Karim Sitaïb, qui est chercheur à l'Institut Thorax à Nantes et qui s'intéresse à l'utilisation des cellules souches pluripotentielles induites humaines pour comprendre le développement du foie et des maladies métaboliques. Et Jeanne Adeba, qui est nouvelliste et romancière. Son œuvre pessimiste partage plusieurs de ses préoccupations, telles que l'acceptation de soi, la différence et le combat contre les discriminations. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous lancer sur ce sujet, peut-être vous introduire un petit peu plus et vous dire qu'est-ce que votre spécialisation, votre domaine a pour nous donner à ce thème.
Le thème, bien évidemment, c'est celui de notre exposition, l'exposition qui a lieu en ce moment au Muséum de Nantes, qui est une idée qui a germé il y a déjà quelques années avec notre collègue du Saguenay, du Musée du Fjord à Saguenay, à savoir comment pouvait-on parler d'éternité. Alors, c'est toujours des moments un peu particuliers, une naissance d'expo, on ne sait jamais trop, c'est assez flottant, et puis on se réunit, on discute, on échange, et puis à un moment, il y a une thématique qui revient. Alors au début, parler de la mort, l'expo sur la mort, il y en a eu quantité d'expos sur la mort, il y a eu quand même pas mal, mais ce qui nous intéresserait, c'est plutôt de parler de l'éternité, ce que nous, la science, pouvons amener à cette question de l'éternité dans une expo qui est et qui se veut grand public. Donc ça a été vraiment ce point de départ, et puis de fil en aiguille, ça a duré quand même plusieurs années, on est arrivé à cette maturité dans la présentation de l'exposition. Je crois qu'on pourra présenter à un moment ou à un autre d'ailleurs des diapositives, la résumant en quelques 10 ou 20 diapositives. Voilà, on est arrivé à cette idée de parler de l'éternité en explorant un petit peu tout ce qu'on savait. Alors, on ne va pas au fond même de toutes les questions posées, mais on essaye en tout cas de les poser. Et ensuite, pour aller plus loin, il y a quantité autre chose.
Karim ?
Moi, j'ai été très intéressé par cette exposition, notamment par l'approche qui a été amenée avec le côté de comment aborder l'immortalité à travers la mort et la momification, et ensuite comment la mort avant d'y arriver, on a des signes qui vont être liés à des pathologies. Donc on peut se mettre un peu dans la peau de certaines de ces pathologies pour pouvoir voir la diminution de nos compétences, de nos caractères humains. Et comment l'étude de certains modèles, et notamment pas mal de modèles animaux, on pourrait y revenir, permettent de comprendre des mécanismes qui vont nous aider à essayer de passer outre ces soit pathologies ou de commencer à avoir une vision un peu plus éclairée de comment peut-on pousser les limites de la mort, donc pousser vers ce but de l'éternité. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est aussi le fait de pouvoir ressusciter de nouvelles espèces. Et donc c'est abordé à la fin de l'exposition. Et avec des techniques qui maintenant sont utilisables aussi en recherche et en médecine, et on pourra les aborder plus tard dans la discussion.
Oui, oui, absolument. Jeanne.
Alors, pour l'écrivain, c'est évident qu'immédiatement, on arrive devant une momie, ça renvoie direct au discours méthodologique. Donc, je me suis mise à penser au roi, grand roi d'Uruk, Gilgamesh, qui part à la recherche de l'herbe de l'immortalité et qui apprend en chemin qu'il ne sera jamais immortel, en quoi il est bien désespéré parce que la mort de son ami et de son amant l'a plongé dans une dépression intense. Du même côté, il y a l'histoire de cet amant de je ne sais plus quel dieu grec pour lequel le dieu était allé voir Zeus et lui avait demandé l'éternité, sauf qu'il avait oublié de demander en même temps la jeunesse éternelle, si bien que l'amant s'est mis à vieillir, 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 vieillir interminablement, jusqu'à ce que, par pitié, Zeus le change en araignée ou je ne sais plus en quoi, pour qu'on ne voit plus sa décrépitude. Donc, effectivement, pour un écrivain de science-fiction, il y a déjà toute la base mythologique qui s'exprime au départ de l'exposition, et à la fin, on arrive complètement dans ce qu'est la science-fiction, c'est le retour de ces espèces disparues, le roc, il y a une tête de roc magnifique. On se dit, mon Dieu, je ne suis pas sûre que j'ai très envie de recroiser cette chose dans un champ, mais après tout, pourquoi pas le Tyrannosaurus Rex, allez, on se fait Jurassic Park, hein, direct. Donc, l'Expo Éternité rend compte de ce cheminement entre la mythologie, la science et la science-fiction. Et qui n'est pas tout à fait de la science-fiction, parce que recréer le roc, retrouver les gènes du dodo ou de n'importe quel autre animal, c'est une des recherches que font les chercheurs maintenant.
Tout à fait. Oui. Oui, absolument. Mais il y a la troisième partie aussi qui me paraît importante, qui malheureusement, on n'a pas une trop grande salle d'exposition à Nantes, qui aussi explique un petit peu le cheminement. L'exposition donc effectivement commence par cette question de l'homme qui a toujours voulu vivre éternellement, donc la momification, les filtres de vie éternelle, enfin il y a quantité de choses. Déjà, il y a un petit contrepoint qui est apporté par une petite vidéo d'ailleurs c'est une animation, c'est pas une vidéo, où on peut comprendre l'âge, la durée de vie humaine depuis 1750 dans notre pays. Donc on voit bien évidemment qu'elle augmente et qu'elle subit les effets de la guerre. Et puis aussi, le contrepoint, c'est de placer cette espérance de vie parmi les autres pays. Et aussi déjà introduire une question. Bon, évidemment, le transhumanisme est en pointillé là encore, parce que sur 250 mètres carrés, traiter de l'éternité, c'est un peu une gageure. Donc c'est un petit peu en pointillé, mais on sent et on perçoit bien qu'il y a une question aussi de démocratie, enfin d'accès à cet ensemble. Donc ça, c'est vraiment le premier contrepoint, donc le temps de la vie, le temps de l'homme hein, sur Terre, et tout ce qu'on fait actuellement pour vivre le plus longtemps possible. On parlait des cellules souches, on pourra revenir, des animaux modèles, évidemment des effets du vieillissement. Et puis, il y a une petite partie où Roland Lehoucq lui-même s'exprime dans l'exposition.
Et hein. Laurent Jeunefort.
Oui, absolument. Hein, où il s'exprime sur ces questions-là d'une façon assez intéressante et qui amène là aussi des contrepoints, parce qu'il faut des contrepoints. Mais ça, c'est le temps de l'homme, le temps qui a toujours voulu vivre le plus longtemps possible. Après, il y a une partie qui est celle où on se compare aux autres espèces. Et là, on voit notre palourde islandaise qui vit tranquillement 500 ans. Hein, c'est quand même tout à fait intéressant. On ne parle pas, bien sûr, d'autres espèces qui, au contraire, vivent très peu de temps. Donc cette question aussi du temps, de la relativité du temps, des espèces, de la question de quand naît une espèce, le temps de l'espèce, qui est quand même beaucoup plus important, des espèces que l'on reconstitue maintenant. On a vu l'Europe, mais il y en a quantité d'autres. Le mammouth, je pense que c'est en voie, hein, si j'ai bien compris, en voie d'être ressuscité et d'arpenter les steppes de Sibérie, ça aussi.
Réchauffement climatique, je me demande si c'est une bonne idée.
Ah bah, ils auront peut-être à manger parce qu'on dit qu'ils sont, je sais pas, enfin, il y a plein d'histoires sur cette disparition des mammouths. Et puis vient après cette troisième partie, c'est évidemment le temps de la vie sur Terre. On est sur des échelles de temps bien plus importantes. Et finalement, le temps de la Terre. Et on termine par cette question, évidemment, que l'éternité, c'est pas la science va nous amener certainement à vivre un peu plus longtemps, pas éternel, mais que finalement l'éternité est déjà en nous. Et ça, il y en a d'autres qui ont pu s'exprimer avant nous sur cette question-là. Reeves en a quand même très très bien parlé, hein, de poussière d'étoiles, c'est-à-dire que ce sont évidemment les éléments qui nous constituent, c'est des éléments au moment de la naissance de notre univers, la naissance de notre système planétaire. Donc tout ça pour dire que cette quête d'éternité, elle n'a de sens qu'en réfléchissant finalement sur nous-mêmes et non en allant vers des choses tout à fait voilà, discutables. Hein.
Oui, et on peut en discuter. Alors Karim, là on parlait de la science et toutes ces recherches, ces études. Qu'est-ce que la science pourrait nous faire ? C'est possible, c'est faisable ?
Donc il y a un certain nombre d'animaux modèles qui sont décrits dans l'exposition. Et donc ces animaux ont permis de comprendre des mécanismes qui permettent notamment le côté régénératif du vivant. Et donc l'exemple le plus marquant peut-être la salamandre, pour qui on peut couper un membre. Et donc les cellules qui sont à la limite de la coupure de ce membre vont détecter qu'il y a un changement, revenir à un état, donc il y a aussi une notion de temps, parce qu'elles reviennent à un état plus plastique, en fait, un état par lequel elles sont déjà passées pour donner le membre, qu'en revenant à cet état, elles acquièrent le potentiel de redonner les différents types cellulaires qui vont permettre la croissance du membre. Et donc on peut maintenant décortiquer ces éléments pour comprendre au niveau moléculaire qu'est-ce qui permet aux cellules de pouvoir revenir. Et il y a eu donc récemment un prix Nobel qui se pose là-dessus, qui se focalisait sur comment prendre des cellules d'un être humain et les faire revenir à l'état de cellules souches. Alors là, vraiment en amont, c'est à l'état de cellules souches qu'on dit pluripotentes induites, qui sont des cellules qui sont proches de cellules souches embryonnaires. Donc théoriquement, ces cellules peuvent donner n'importe quelle cellule du corps humain. Quand j'étais à la fac, le dogme était, lorsqu'on a une cellule pluripotente embryonnaire qui va se différencier en différents types cellulaires pour donner le corps humain, le retour en arrière est impossible. Et quelques années plus tard, ce dogme a été cassé, et c'est grâce à l'étude de ces modèles, que ce soit par la génétique ou par des mécanismes moléculaires de régénération, qu'on a pu commencer à voir, à comprendre ces mécanismes et commencer à les appliquer à l'homme. Alors après, donc ces utilisations ont des, l'utilisation telle quelle est encore assez, on est à ses débuts. Donc c'est comprendre certaines maladies, donc ça on pourra revenir après. Est-ce qu'on peut utiliser ça en thérapie cellulaire, donc prendre les cellules de quelqu'un, les faire revenir cellules souches, les différencier en cellules de foie, par exemple, qui est ma spécialité, ou cardiaque, et les remettre chez cette personne après avoir réparé les cellules. Ces modèles ont permis notamment d'amener toutes les connaissances qui maintenant sont applicables à l'homme et nous permettent d'avancer.
Alors, ce que la science-fiction, elle a tenté de porter comme réponse à la question de l'éternité telle qu'elle est traitée dans l'exposition du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est d'abord toujours des mises en garde. L'immortalité, ne cherchez pas, c'est mal. Vous serez malheureux, vous mourrez seul, là où la Terre explosera sous la surpopulation, pardon. On reste dans le côté tout à fait mythologique où on n'y a pas droit à l'immortalité, moralement. Et pourquoi est-ce qu'on n'y a pas droit ? Parce que l'immortalité, l'éternité, c'est le fait de Dieu. Or, ça, ce n'est pas une... Très curieusement, alors que la science-fiction, en général, est quand même quelque chose de rationnel, là, elle retrouve les racines de la religion, dont, par ailleurs, la plupart du temps, elle s'extrait. Alors, d'un point de vue science-fictif, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de l'éternité ? Eh bien, les voyages dans l'espace. Là, la survie de l'humanité, elle est dans l'espace. On peut, là, à partir de maintenant, vu l'état de la planète, hein, je vois pas comment on va s'en tirer. Mais bon, donc on part dans l'espace pour trouver ailleurs les ressources de tout ce qu'on a foiré ici. Pour arriver d'ici, de cette planète, la Terre, à une planète qui éventuellement pourrait accueillir la vie humaine sous les formes que nous lui connaissons. Il faut un temps de vaisseau qui n'est pas celui d'une génération. Donc augmenter la vie du pilote et des passagers peut être une des solutions. Et une solution extrêmement pratique. On envoie les immortels dans l'espace et ils colonisent les galaxies. Merci, mon Dieu. L'autre solution, c'est les vaisseaux générationnels. C'est-à-dire qu'on embarque les familles et tout le temps du voyage, les gens grandissent et meurent, vieillissent. Et en espérant qu'à bout de 5 ou 6 générations, le message de départ est toujours là, ce qui, en général, en science-fiction, est considéré comme non. En général, en science-fiction, quand on raconte cette histoire-là, à la fin, les descendants sont débiles, ils ont versé dans la barbarie la plus noire. Une des plus belles histoires qui raconte ça, c'est soit Voyage sans escale de Brian Aldiss, qui nous a malheureusement quitté cette année, soit La balade de Beta 2 de Samuel Delany, une pure merveille, une novella d'une poésie extraordinaire qui raconte ça, qui raconte d'ailleurs le double truc. Un, on envoie des vaisseaux générationnels qui partent pour des centaines et des centaines d'années, et de l'autre, ils sont rattrapés par les vaisseaux ultra-luminiques avec les éternels de l'autre côté. Ce qui fait que quand les générationnels arrivent sur la planète, il y a déjà leurs descendants qui sont là et qui les regardent comme des... terrible. C'est un drame absolu, cette histoire. Donc, la science-fiction, elle a beaucoup traité ce terrain-là. Elle s'est toujours profondément méfiée de l'éternité. On a, par exemple, sûrement dans la librairie, un roman que je conseille à tout le monde, qui est Jack Baron et l'éternité de Norman Spinrad, qui raconte comment, et là on approche le transhumanisme, on approche la question des cellules souches, il s'agit de prélever des glandes sur des enfants, des glandes qui, convenablement irradiées, vont donner l'immortalité à une riche caste de profiteurs. Et Jack Baron est un journaliste qui met... qui découvre le poteau rose et qu'est-ce qui se passe après. On n'est pas loin, là, des vrais dangers du transhumanisme. Ce que moi, je vois arriver, c'est-à-dire l'exploitation des humains par une surcaste, surmédicalisée, suréquipée, etc. Je ne dis pas qu'en soi, les techniques sont mauvaises. Un marteau n'est jamais mauvais. Hein ? Avec un marteau, on plante un clou, on peut fracasser un crâne. Tout est comment et de quelle façon on va le poser dans la main à qui. Et dans l'Expo Éternité, ce sont les questions qui sont posées clairement, notamment par Roland Lehoucq et Laurent Jeunefort.
Il y a aussi une question d'immortalité, c'est la question de l'évolution. Parce que finalement, on fige complètement le fait évolutif. Nous-mêmes, nous évoluons. D'ailleurs, on a été obligé d'intervenir dans l'expo sur la naissance de l'homme moderne, puisque quand on a rédigé les textes, on était à 200 000 ans, et puis ensuite, on est à 300 000 ans pour la naissance de l'homo sapiens. Donc on a essayé de rectifier là où on a pu rectifier. Mais en quelque sorte, l'immortalité fige cette évolution et ne permet pas aux uns aux autres de, finalement à notre race, notre espèce humaine de progresser. Et ça, c'est aussi une chose que l'on a dans cette expo en disant, et j'espère qu'on l'a compris quand on passe de la partie 1 à la partie 2, c'est-à-dire que finalement pour que l'espèce vive, il faut que vous-même vous mouriez. Ça, il faut accepter sa mort. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'expo, mais c'est vraiment un des messages forts que j'ai aimé faire passer dans ça. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut pour rendre éternel. Mais à un moment, si on veut vivre, si on veut que notre espèce vive et continue, il faut nous-mêmes mourir. Il faut accepter sa mort.
Savoir passer le flambeau. Il y a un des modèles que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qui était dans la collection, le tardigrade. Parce que du coup, c'est l'un des modèles pour lequel ce n'est pas vraiment sa capacité de régénération, de conserver ses télomères ou de pouvoir régénérer un membre qui sont mis en avant, mais plutôt sa capacité à résister. Et donc il y a ce côté aussi d'interaction avec son environnement et de pouvoir, dans des conditions extrêmes, pouvoir subvenir à ses besoins et passer outre cet épisode pour pouvoir continuer. Et donc c'est assez rigolo parce que ça a été repris dans la Star Trek Discovery. Il y a un tardigrade géant qui a été amené et qui en fait vraiment se comporte, donc bon, il l'utilisait différemment, mais allez, c'est ce même instinct en fait de résistance à l'environnement. Et donc j'ai trouvé ça assez amusant d'avoir, enfin, le tardigrade était un peu le modèle qui sortait du lot par rapport aux autres modèles. Et du coup, il n'y a pas ce côté, enfin, il y a ce côté immortalité, mais plus quête de, enfin, la résistance à l'environnement qui en fait influe sur notre propre mortalité.
Star Trek a une histoire avec les animaux immortels parce que l'un des premiers épisodes de Star Trek Generation, c'est la méduse géante de l'espace. Il y en a une bleue et une rose, on ne sait pas pourquoi. Mais donc là aussi, c'est une question de mortalité et de superpuissance. Alors, elles sont les méduses. Alors, une espèce particulière de méduse, il me semble, à l'Expo Éternité. Et si j'ai tout bien compris, ce sont des animaux qui peuvent se régénérer totalement, redevenir jeunes.
Non, c'est le cycle biologique de la méduse qui commence par une forme fixe, polype, et qui ensuite devient une forme libre et qui se propage notamment dans les mers, bien sûr. Et dans les mers ou dans l'eau, hein, parce qu'il y a aussi des méduses d'eau douce. Mais à un moment donné, quand les conditions vont devenir très mauvaises au niveau de leur environnement, elles vont redevenir une forme polype, une forme fixée. C'est-à-dire qu'elles vont abandonner cette forme libre, elles vont attendre qu'effectivement les conditions redeviennent plus intéressantes et ensuite vont recoloniser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi justement de voir que dans la deuxième partie, il y a des méduses qui sont datées à 600 ou 700 millions d'années et qui sont extrêmement proches de l'actuel. Donc c'est pour ça aussi dire qu'elles évoluent, mais très 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 lentement.
Et du coup, ça serait lié à ça, à cette possibilité de... Possiblement, ça pourrait être lié à ça.
Ça pourrait être lié à ça, ouais.
Alors, cette résistance à la nature, on parle là que c'est peut-être pas désirable, l'immortalité, l'éternité, mais qu'on a plein d'animaux qui ont cette résistance à la nature. Est-ce que l'immortalité, pourquoi on quête pour l'immortalité? Pourquoi c'est aussi important? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec notre évolution, notre adaptation, de vouloir continuer, être résistant?
C'est assez difficile de répondre à la question, mais si on revient dans ce contexte-là au côté immortalité et des générations, et donc le fait qu'on ait une évolution de l'humanité avec les différents croisements, en fait, on interagit avec notre environnement. Donc quelque part, le fait d'avoir des générations et de mélanger nos matériaux génétiques, on s'adapte à l'environnement et c'est une forme d'immortalité, mais pas à l'échelle de l'homme, mais plutôt pour l'humanité.
Oui. Dans La Cité des Astres d'Arthur C. Clarke, il imagine une société d'immortels qui sont enfermés dans une cité. Il n'y a plus rien d'autre sur la planète. En tout cas, on pense qu'il n'y a plus rien d'autre sur la planète que cette cité. Qui protège l'humanité des ennemis venus des étoiles. Donc c'est une espèce de forteresse où il y a les derniers humains. Et justement, la crainte de Diaspar, la grande cité qui protège les derniers humains, c'est être figé. Donc, parmi ces immortels, elle crée, la cité elle-même, sporadiquement, une espèce de joker. Un jeune homme qui vit son enfance pour la première fois à Diaspar et qui fout la merde. Il est là pour ça, pour mener le désordre, etc., pour que la cité trouve la cité et la population trouvent des solutions par rapport à ce désordre qui lui permet de changer, d'évoluer, d'avancer quand même. Alors c'est très lent puisque ce sont des immortels, on revient à ça, et que c'est toutes les 2-3 générations, mais c'est une idée qui permet l'humanité sans la stagnation. Et la stagnation dans la tête de Clark, et d'après ce que vous venez de dire, c'est en fait c'est la mort de l'espèce.
Là, il y a l'ajout d'une variable, en fait, quelque chose qui n'est pas prévisible et qui nécessite aux éternels de pouvoir interagir et de quelque part d'évoluer parce qu'ils n'étaient pas confrontés à cette situation.
Parce que quelque part aussi, on a que l'immortalité, c'est un fantasme de contrôle total aussi de l'être humain. Et là, on a quelque chose qui fout la merde, comme vous avez dit, et ça permet la croissance, growth. Alors, le transhumanisme, on avait parlé un tout petit peu. Et là, je trouve très intéressant le cerveau artificiel, le robotique. Là, on parlait de foutre la merde. Comment on peut voir une immortalité dans une machine? Qu'est-ce que vous pensez?
Donc, on commence évidemment à explorer dans cette exposition les outils qu'on a déjà à notre disposition. Bon, on parle de l'homme réparé, hein, de l'homme augmenté. D'ailleurs, il y a l'exposition de l'INSERM de l'autre côté. En tout cas, financé par l'INSERM, avec d'autres, la Nef des Sciences de Mulhouse notamment. Donc cette question, évidemment, qui va très très vite. Hein, on a notamment dans l'homme réparé, là on présente dans l'exposition une main bionique, hein, mais une main, en open source. Hein,
c'est-à-dire c'est que... une main low cost.
Oui, c'est ça, c'est une main low cost. Qui est encore à 15 000 euros. Hein, faut aussi relativiser les choses comme low cost, mais en tout cas, c'est une main qui existe, et donc ça, dans cette question de la réparation de l'homme, on va aller certainement plus loin. Mais j'ai l'impression quand même que là où on va certainement avancer de manière encore plus rapidement, c'est dans le domaine des cellules souches, dans le domaine de la génétique, où là, les interventions sur la génétique, et quand on commence à explorer d'ailleurs le sujet, on est pris d'un certain vertige en se disant, mais non, d'une pipe, ça va à une rapidité en termes de découvertes scientifiques qui est absolument phénoménale et dont j'ai l'impression que le public n'en a pas encore saisi vraiment toute l'importance. Et ça, c'est... Ça va avec ces questions aussi de transhumanisme où il y a un certain profil, je dirais, de personnes sur Terre qui en sont tout à fait conscients, qui ont les moyens d'ailleurs aussi de réagir et de pouvoir s'approprier hein, ces technologies, ces techniques, alors bien sûr à leur bénéfice, alors qu'il y a une grande partie de la population qui est, je dirais, on va maintenue dans l'ignorance quelque part. Hein, sur ce qui se passe en matière de génétique et de découvertes qui sont faites, mais très 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 rapidement. C'est ça vraiment cette espèce de vertige, alors évidemment, qui fait appel peut-être au danger. Après, on peut imaginer, mais il y a quelque chose là qui m'est extrêmement troublant en travaillant sur cette expo. C'est cet écart qui se creuse entre ce que la science propose et ce que finalement la population connaît.
Non, c'est vrai, ça devient de plus en plus pointu et ça va très très vite. Donc il y a un élément dans l'exposition qui est aussi présenté avec la main bionique, c'est le cœur artificiel, donc le CARMAT. Donc là, c'est vraiment une pièce de machinerie qui va être utilisée pour pouvoir avoir une fonction assez simple de pompe pour permettre la circulation dans le corps humain. Alors après, donc c'est un élément qui avait été discuté justement à la table ronde précédemment sur la médecine du futur. Il y a ce côté un peu, est-ce qu'on est des machines pour lesquelles on va pouvoir changer les pièces assez facilement? Alors c'est un débat qui est quand même assez, qui est compliqué parce que il y a donc aussi évoqué avant, on est une forme d'écosystème avec une interaction très intriquée entre les différents organes, les cellules dans chaque organe. Donc c'est à modéliser extrêmement compliqué et à essayer de remplacer par des choses un peu plus simples, mécaniques, quasi impossible. Par contre, et c'est là où il y a plusieurs frontières de la science qui commencent à se rejoindre et ça devient, comme vous le dites, ça donne vertige. Il y a donc le côté génétique qui permet de comprendre vraiment le langage de la cellule, les éléments utilisés pour pouvoir rendre le tout harmonieux. On peut maintenant prendre des cellules qui ont une spécialité pour les faire revenir à l'état de cellule souche et puis leur dire maintenant tu vas devenir un autre type cellulaire. Une cellule de peau va devenir une cellule nerveuse. Au laboratoire, nous, on utilise des cellules qu'on récupère à partir d'urine. Donc c'est pour dire que même maintenant, les déchets peuvent être utilisés. On isole ces cellules, on les amplifie pour pouvoir faire des cellules souches ensuite qui portent le génome du patient d'intérêt. Maintenant, il existe de nouvelles, une autre révolution de la biologie moléculaire qui sont les CRISPR-Cas9. Donc, c'est une technologie permettant, en fait, de façon très ciblée, d'aller et contrôler, d'aller modifier le génome humain. Donc, on peut à volonté maintenant vraiment corriger des mutations, insérer de nouveaux gènes. Donc c'est un outil qui est incroyable pour le scientifique qui peut continuer à modéliser, mais qui peut avoir aussi des conséquences sur la société un peu difficiles à contrôler, notamment sur tout ce qui est eugénisme et modification chez l'embryon.
Oui, parce que si on se met à éradiquer totalement, par exemple, le gène qui cause l'anémie falciforme, on éradique aussi la résistance au paludisme avec. C'est terrible, mais parfois, une mutation négative a un aspect a une double face positive. Donc, on ne sait pas, quand on a un problème génétique grave, si en l'éradiquant totalement de la population, on ne va pas créer... on ne va pas empêcher un bénéfice secondaire. On ne le sait pas. Donc, au niveau individuel, c'est forcément un progrès de pouvoir avoir accès à une thérapie génique. Au niveau global, c'est une catastrophe. Il faudrait pouvoir envisager une médecine pas chère, individuelle. Et là, on arrive sur un autre problème, qui est le problème économique.
Et si on veut juste continuer sur le côté des limites qu'on est en train de pousser, et donc là, on revient sur Carmat et le cœur artificiel. Maintenant, on commence à combiner les cellules, leur environnement, et de les mettre ensemble de façon organisée grâce à la bioimpression 3D. Donc il y a de plus en plus d'équipes ou de boîtes qui commencent à vraiment se lancer dedans et à pouvoir commencer à bioimprimer des morceaux d'organes, donc soit pour la recherche fondamentale ou pharmacologique pour comprendre les effets de médicaments. Mais on peut imaginer qu'on peut arriver bientôt à des organes. Est-ce que ces organes pourraient être utilisables en transplantation ou pour ce type d'application, avec les coûts associés? Ça devient aussi une question de société et scientifique importante.
Alors, bon, j'avais envie de revenir sur le téléchargement des consciences dont on parlait tout à l'heure. En fait, quelque part, ça pourrait apparaître comme la solution à un des problèmes posés par la recherche d'immortalité, parce que on peut télécharger des millions de gens, des milliards de gens. Le problème de la place, le problème des ressources physiques, nourriture, eau, air, etc., est peu important pour une conscience téléchargée, en fait. Ça pourrait être une des solutions de l'immortalité. On vit sa vie d'homme jusqu'au moment où on arrive à l'acmé de sa vie d'homme, de femme d'ailleurs, d'humain, voilà, d'humain. Voilà. Et à la fin, au terme de cette existence, on est téléchargé et on connaît une seconde existence, immortelle cette fois, d'être numérique. Ça pourrait être intéressant comme forme d'immortalité. Et elle aurait peut-être, parce qu'il faut envisager quand même les coûts du soutien numérique des serveurs qui tiendraient l'humanité dans son silicium et autre chose, autre support que vous voulez, biologique par exemple. Il faudra envisager ce coût-là. Mais peut-être que ce serait moindre qu'avoir une vraie population des mortels, physique.
Oui, forcément. Mais est-ce que c'est une quantité...
Ça n'a pas l'air de te tenter.
Non, absolument pas. Non, justement, je pensais à l'exposition qui nous ramène sur des questions très, très biologiques aussi, hein, d'espèces. Y a une chose qu'on a juste évoquée, là encore, il aurait fallu... C'est presque l'objet de notre exposition. Enfin, c'est une exposition dont on rêve de la faire, mais ça va tellement vite que... les recherches vont tellement vite dans ce sujet-là, c'est l'évolution humaine, et notamment les rencontres qui se sont faites avec Néandertal, avec Denisova, et tout ce que ça a apporté. On commence à comprendre, Denisova, par exemple, permet aux Tibétains d'être beaucoup plus à l'aise en haute altitude, les Papous, je ne sais plus ce que ça leur a apporté exactement, mais il y a aussi cette question de l'autre humanité, en même temps, qui se pose, et qu'il faudrait, là encore... Donc, ramener ça à des questions peut-être plus sereine, plus biologique finalement, de vie biologique, de vie dans un univers dans lequel on fait partie, mais pas forcément dans notre conscience, mais dans nos éléments qui nous constituent. Je crois que c'est vraiment, moi ce qui me paraît en tout cas, d'arriver à un moment dans sa vie à accepter cette bascule.
Mais on n'est pas programmé pour ça. Enfin, biologiquement, on est programmé pour se faire... pour préserver notre corps et ensuite celui de nos enfants. Oui, grosso modo, c'est peut-être aussi, la programmation qui est la plus...
On est aussi beaucoup préservé, programmé, en tout cas, pour la survie de l'espèce. Regardez l'importance du sexe dans notre environnement, et je pense que ça, c'est aussi une des données qui me paraît essentielle, c'est cette... cette nécessité, c'est de se reproduire, hein, de toujours, dans n'importe quelle condition, même évidemment, plus on est pauvre et plus finalement on se reproduit. Et je crois que ça, c'est vraiment le moteur même de notre existence et le moteur de notre évolution et de l'évolution, d'ailleurs, de toutes les autres espèces pour lesquelles la frontière est quand même très ténue. Hein.
Oui, enfin, il y a des tas d'individus qui n'ont aucune envie de se reproduire qui échappent à la programmation qui est sociale, là, je pense beaucoup. Oui. C'est l'espèce qui parle sur l'individu. Or, là, ce dont je parlais au départ, c'est la programmation individuelle, puisque, au fond, l'immortalité, c'est un problème individuel, plus que global. La programmation de l'individu, c'est de préserver son corps. Ensuite, effectivement, celui de ses enfants, qu'on a créé par le biais du sexe, qui est quand même pas une programmation. C'est un truc avec... Attends, comment ça s'appelle quand on récompense les bons comportements?
Pavlov, là.
Voilà, c'est une espèce de Pavlov. Si tu baisses, tu as du plaisir, donc tu vas avoir des enfants. C'est très récompensé comme programme. C'est très récompensé comme comportement.
C'est marrant parce que tu utilises le mot programmation. Du coup, ce qui nécessite...
On parlait de télécharger, donc...
Ouais. La machine.
Mais il y a aussi un élément qui est intrinsèque et qui un peu règle nos corps et nos vies, c'est notre ADN. Donc, qui est une espèce de code.
Ah,
qui,
oui.
Et donc, il y a aussi des théories qui tendent vers le fait que, en fait, nous ne sommes que le support du maintien de notre ADN, qui, en fait, est très... égoïste, en fait, qui cherche uniquement à être préservé avec le temps.
Il y avait une super nouvelle de Gérard Klein comme ça, où en gros Dieu était une bactérie qui avait créé l'humain pour la transporter. Je raccourcis complètement le sujet, mais en gros c'était ça. Nous n'étions que le vaisseau d'une bactérie.
Alors là, on danse un peu sur les deux côtés, donc la conscience qu'on peut télécharger ou le corps, l'ADN. Pour vous, où est cette frontière de l'humain? Si on parle de faire un être humain immortel, c'est un être humain? Si c'est une conscience toute seule, sans corps, désincarnée, ou est-ce qu'il faut le corps, l'ADN? Où est-ce qu'on se trouve, là?
Alors comme ça, là, à brûle pour point, j'aurais tendance à dire que notre âme est faite de chair.
D'accord.
Voilà. À partir du moment où on est téléchargé, et ça n'est plus nous. Et cet être téléchargé va vivre autre chose, une autre expérience. Ça sera une copie qui aura accès à toute notre expérience physique, c'est vrai, mais qui n'en aura plus que les souvenirs, pas le goût.
On ne pourrait plus vraiment parler d'humanité, en fait.
Et je ne pense pas que ce soit l'humanité, en effet.
Et c'est l'immortalité ou c'est comme une statue? C'est un cinéma d'un être qui a existé? C'est pas une existence si ça change plus.
C'est un fantasme, mais après ça devient, oui, quels sont les conséquences? Comme on n'y est pas, on n'y a jamais accédé, on n'a aucune idée de qu'est-ce que l'immortalité peut nous faire, nous, en tant que personne, ou globalement, en termes de... D'où la science-fiction, pour justement lancer ce type de débat.
J'aimerais quand même moduler ce que je viens de dire. On aurait peut-être un autre genre d'être, mais ça serait plus, effectivement, plus l'humanité. Ça serait quelque chose qui serait à cheval entre l'humanité et l'intelligence artificielle. Et ça pourrait être tout à fait une créature, comme nous sommes des créatures, mais ça serait la nôtre, c'est tout. Et une créature qui serait dotée de pensée et parfois peut-être quelque chose qui ressemble à de l'empathie, parce que c'est quand même un peu la base. Je suppose qu'on pourrait créer des neurones miroirs dans une intelligence artificielle, hein, lui apprendre à sourire quand on sourit. C'est aussi comme ça qu'on crée l'empathie chez les enfants, en sollicitant la réponse affective. Donc, pourquoi pas? Mais ça ne serait effectivement plus notre âme, notre chair, notre humanité.
Oui.
Ça serait... peut-être notre premier extraterrestre. Voilà.
Oui, parce que ce serait même notre propre conscience. Enfin, je sais pas. Là, je pense que je vous laisse réfléchir à ce genre de choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que, comme voyant leur tourner, j'ai quelques images de l'expo pour vous présenter. Donc, je pense que si j'appuie sur le vert, ça doit avancer. Voilà. Bon, simplement pour dire qu'effectivement, il y a une exposition au miroir aussi qui se tient actuellement au musée du Fjord dans ce beau coin du Saguenay, au nord de Québec. Vous aviez d'ailleurs en photo, et c'était évident pour eux de reprendre le cap Éternité que le fjord longe. Voilà. La première partie, l'introduction à l'homme a toujours rêvé d'éternité. C'est donc cette première partie dans laquelle on rentre et dans laquelle on a aussi énormément de mots raccrochés à ce terme d'éternité. Bien évidemment, je passe assez vite. Voilà, nous parlions de la momie. Évidemment, cette momie que les Égyptiens ont travaillé pendant longtemps.
Je peux dire un truc?
Ah oui, bien
sur la
sûr.
Momie. Alors, il y a quelque chose qui m'a passionnée dans la momie, c'est la petite vidéo que vous avez à côté, là au-dessus. C'est l'intérieur de la momie. On voit ses os, le reste de ses organes, etc. C'est extrêmement touchant, quelque part, et intéressant.
Oui, tout à fait. Et à côté, vous avez les vases canopes, qui ont été rapportés par Frédéric Caillot, qui était un de nos grand explorateur nantais du début du 19e, qui a fait véritablement un très très beau, une très belle exploration, notamment de la région de Méroé. Et ensuite, bien sûr, voilà ce que je vous disais, le temps de l'homme, le temps vieillir, c'est quoi déjà la question du vieillissement. On a tout un attirail qui est utilisé notamment dans les maisons de personnes âgées, pour que le personnel soignant se rende un petit peu compte de ce qu'est le fait de moins voir, de moins bouger, etc. Ça, c'est important. Les animaux modèles pour l'éternité, donc il y en a 6 de présentés. Il en manque un. Bon, c'est le rat taupe, on aurait pu en parler, le rat taupe qui n'a pas de cancer. Bon, il ne développe pas de cancer, donc c'est quand même intéressant d'étudier aussi la question de ce rat taupe. Vous avez le homard, qui lui ne meurt jamais de vieillesse. Il meurt de maladie, il meurt de
grillade.
De grillade, oui, absolument. Il connaît pas
le fameux modèle qui régénère, c'est télomère, donc ses extrémités de chromosomes.
Les télomères, oui, absolument. Ouais, ouais. Voilà la place aux immortels, avec ce point d'interrogation. C'est là qu'intervient nos amis pour nous parler effectivement de ces questions d'immortalité. Vous avez la main bionique qui est développée à Rennes, pas très loin d'ici d'ailleurs. Vous avez le cœur artificiel et en face vous avez l'interview de Patricia Lemarchand qui intervient aussi un peu plus tard ici sur les cellules souches. Le temps de l'espèce est un passage qui est celui de la bibliothèque interactive. Alors voilà, on a introduit des bibliothèques dans lesquelles on peut accéder à cette quantité d'informations qui existent, mais aussi vous avez des livres. Des livres. Et j'étais surpris de voir que les livres sont quand même encore très 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 bien lus et que les gens prennent le temps de lire dans nos expositions. Et je trouve ça très très réconfortant. Bon. La baleine, la tortue, le perroquet, tous des symboles d'une vie animale très longue. Là encore, le bénitier qui vit aussi très long, le séquoia, etc. Donc, un certain nombre d'animaux modèles. Vous avez en bout de course très beau, très belle tête de roc reconstituée. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est reconstitué. C'est-à-dire que le génome de ce taureau n'est pas le même de cet aurore n'est pas celui de l'espèce originelle. C'est vraiment une reconstitution, il faut bien être clair là-dessus.
Principales caractéristiques de l'animal.
Voilà, c'est ça, les caractéristiques physiques de l'animal, on peut les reconstituer, mais on ne reconstitue pas le génome. Là aussi, je vous ai parlé de la question de la spéciation, la naissance de l'espèce humaine. Je passe très vite. La question des espèces panchroniques, là encore, avec l'idée dans la tête que, de toute façon, les animaux, évolue toujours, même si l'apparence physique ne bouge pas beaucoup. C'est ce qu'on disait à l'instant. Le Nautile, très bel exemple. Un Nautile à 100 millions d'années, peut-être. Je n'ai plus en tête la date exacte. Et le Nautile actuel, d'extérieur, bon, l'un fossile, l'autre actuel. Donc, évidemment, ils ont un aspect différent. Mais, en tout cas, de point de vue du vivant, ils ne devaient pas être très, très différents. Donc, 100 millions d'années. Par contre, leur génome a évidemment évolué de façon très importante. Et le temps de la vie sur Terre, c'était la dernière partie. Cette partie qui aurait mérité, d'ailleurs, une salle entière. Sur la question de l'éternité, avec les premières traces de vie humaine, et puis la météorite qui est là pour symboliser la naissance du système solaire, et que dans ces éléments de système solaire se trouvent nos propres éléments qui nous constituent. Voilà. Et l'éternité, il y a même une citation d'ailleurs de la Bible, c'est un petit peu volontaire, dans un lieu de science, parce qu'on fait référence à cette question, tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est un peu aussi à le prendre, bien sûr, au deuxième degré. Voilà, très très, très, très rapidement, ça n'a aucun intérêt, cette visite virtuelle, mais je vous engage, bien sûr, à aller la voir jusqu'au 12 mars prochain.
Oui, absolument. D'autres commentaires ?
Non, peut-être avoir des questions.
Oui, c'est ça. Alors, nous avons 7 minutes qui nous restent. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités ? Aucune question sur l'immortalité. Voilà, monsieur. On a quelqu'un avec un micro.
Oui, normalement, on a quelqu'un avec un micro qui arrive.
Voilà.
Bonjour. J'aurais une question qui sera peut-être plus précisément adressée à Karim, parce que je ne me souviens pas de votre nom de famille. Récemment, on a, après CRISPR-Cas9, là on vient de parler de CRISPR-Cas13, du coup, qui pas sur l'ADN mais plutôt sur l'ARN, et qui aurait peut-être des conséquences moins profondes. Donc est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? Et également, j'ai plus en tête non plus la différence entre les cellules souches. Donc il y a les totipotentes, il y a pluripotentes et multipotentes. Et qu'est-ce que certaines peuvent faire et pas les autres? Entre les multi et pluri, en fait, c'est.
Alors je vais essayer de faire des questions assez. Enfin, on pourrait passer quelques heures dessus. En gros, sur le côté multipotent, pluripotent, totipotent, par exemple, lorsqu'on a. Alors, notre foie, si on abuse d'alcool, il va y avoir des dégâts. Et il y a des cellules à l'intérieur qui vont permettre de régénérer le foie. Si on coupe deux tiers du foie, il se régénère en une semaine. Donc là, on a des cellules qu'on appelle multipotentes parce qu'elles peuvent se différencier, elles peuvent redonner les différentes cellules du foie, mais elles ne pourront pas donner des cellules musculaires ou des cellules cardiaques. Les cellules pluripotentes, donc c'est ce qu'on utilise en laboratoire, sont des cellules qui peuvent donner toutes les cellules du corps humain, en comprenant les neurones, cellules rénales, l'estomac, intestin, tout. Sauf que, en fait, on ne pourrait pas faire d'embryons avec parce qu'elles ne peuvent pas faire des annexes embryonnaires qui sont nécessaires pour la survie d'embryons. Les cellules totipotentes, et en fait, c'est des cellules souches murines qu'on avait isolées initialement au début des années 80, sont des cellules qui, elles, peuvent donner vraiment tout l'ensemble qui permet à l'embryon de pouvoir se former et de survivre, et qui a permis de faire de la souris un animal de transgénèse fabuleux. Pour le côté Cas, donc effectivement, Cas9, c'est le nom d'une enzyme. Donc il y a toute une famille d'enzymes qui viennent de bactéries, donc qui ont différents génomes, et ces enzymes vont avoir des caractéristiques différentes, donc certaines peuvent avoir des affinités pour le côté ADN, des oxybonucléotides, ou ARN. Et il faut savoir maintenant que les CRISPR sont utilisés donc par les chercheurs à plein de niveaux différents, même sans forcément couper l'ADN, en ajoutant de nouveaux éléments qui permettent de modifier l'expression d'un gène ou de réprimer l'expression d'un gène, ou d'autres astuces qui permettent de faire, de révolutionner un peu la biologie moléculaire au niveau de l'ADN et de l'ARN.
Merci Karim. Une autre question ?
Oui, bonjour. J'avais une petite question. Alors, on parlait d'éternité pour l'être humain et vous avez pas mal parlé de l'immortalité chez c'est des êtres assez simples, le tardigrade, le homard, tout ça. Mais si on appliquait ce concept-là finalement à l'humain, est-ce qu'au bout d'un moment, il finirait pas par devenir fou ? Est-ce qu'il a été envisagé notamment l'éternité chez un être humain, au bout d'un moment, lui-même le supporterait pas ?
Je vais répondre à la question, moi. Alors, en fait, j'ai essayé de répondre à cette question dans une histoire qui s'appelle Métaphysique du vampire, et qui part donc d'un individu immortel, hein, et qui, normalement, s'il se nourrit correctement, arrive à traverser les siècles. Et effectivement, ils deviennent tous fous parce qu'ils finissent par s'ennuyer, par devenir des assassins meurtriers, etc. Sauf mon héros, qui est totalement dans la philosophie du carpe diem, bien boire, bien manger, bien baiser, bien rigoler avec les copains, voir des jolies choses. Devenir fou et s'ennuyer, c'est partir du principe qu'il n'y aura pas plus jamais quelque chose de nouveau, plus jamais quelque chose de beau, plus jamais quelque chose de, d'admirable. Or, Navarre, lui, part du principe que lui, sa chance, ça va être de traverser les siècles et de voir chaque fois quelque chose de nouveau, de beau, d'admirable, même s'il le paye d'une tragédie à chaque fois, puisque parfois il perd ces gens-là qui lui ont apporté le beau, l'admirable, l'attendrissement, etc. Donc, ce n'est pas une réponse scientifique qu'on peut faire à cette question-là. Mais devenir fou parce qu'on s'ennuie, c'est de l'ordre de la responsabilité personnelle, individuelle. Si on ne se donne pas de projet, si on ne se donne pas, si on n'écoute pas le désir, et pas au sens du besoin, le vrai désir, celui qui conduit à la réalisation de soi, si on ne l'écoute pas, bien sûr, on devient dingue, puisqu'on n'existe pas. Mais on n'a pas besoin d'être immortel pour ça. Hein. 50 ans, à ce rythme-là, vous devenez dingue.
Merci, Jeanne. Une dernière question ?
Oui, bonjour. En fait, j'avais une petite question au propos des Soulsouches. On va dire, au niveau de la guerre froide, etc., il y avait quelques ambiguïtés par rapport au clonage, etc., et je pensais que toutes les recherches scientifiques au sujet des cellules souches avaient été interdites un peu ici. Donc, vous nous expliquez que dans les laboratoires, vous étudiez ça. Où est la limite, justement, de l'étude de ces cellules souches, et est-ce que c'est vraiment restrictif pour vos recherches ?
Alors, il y a un encadrement éthique, bioéthique, en fait, très fort autour de l'utilisation des cellules souches, notamment pour les cellules souches embryonnaires, donc celles qui viennent vraiment de l'embryon. Dans notre groupe de recherche, on utilise surtout ce qu'on appelle ces cellules IPS. Donc, c'est des cellules d'une personne qu'on fait revenir à l'état de cellules souches, mais pour lesquelles on ne pourra pas faire d'embryon ou avoir un clonage, par exemple, possible. Mais ça nous permet d'étudier des maladies génétiques au laboratoire. Et donc, c'est ça qui est vraiment l'outil le plus répandu.
Alors, merci, Karim. Bon, on arrive à la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion. Bonne utopiale!